Priorité santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Protéger sa fertilité, comprendre quels facteurs entrent en jeu lorsque l'enfant se fait attendre, trouver l'écoute appropriée et des solutions adaptées lorsqu'au sein d'un couple ce désir ne se traduit pas par la conception d'un bébé en dépit de rapports sexuels réguliers, une absence de grossesse qui peut se révéler douloureuse, difficile à affronter. Cette question de l'infertilité, c'est une préoccupation planétaire, même si les explications peuvent varier en fonction des régions du monde, causes diverses et bien sûr réponses, traitements très différents en fonction des ressources, des systèmes de soins et de l'accès ou non aux avancées de la procréation médicalement assistée. L'infertilité, ce n'est pas simplement une question médicale ou de santé sexuelle et reproductive. L'enjeu est également sociétal, perception du couple, retentissement sur les liens familiaux, regard et parfois jugement de la société, d'où l'importance de mieux informer, de sensibiliser, lutter contre les préjugés pour mieux accompagner ces couples en souffrance, à force d'espérer de devenir parents. Comprendre l'infertilité, ses causes chez l'homme comme chez la femme, quelle prise en charge, quel traitement, où en est la recherche? Pour répondre aux questions des auditeurs, on vous retrouve, docteur Sylvie Eppelboin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricienne, médecin de la reproduction au sein de l'hôpital Bichat à Paris. Docteur Eppelboin, vous avez co-signé avec Élise Carlin l'ouvrage « J'ai longtemps pensé qu'il suffisait d'être deux » publié aux éditions Grasset. Nous donnerons également la parole à Sandrine Cachara, fondatrice et coordinatrice nationale de l'organisation Femmes Solidaires en RDC, collectif qui aide les femmes confrontées à l'infertilité. Et puis en fin d'émission, nous verrons comment la riposte au Covid-19 affecte la prise en charge des autres maladies dans la région Sahel. Nous entendrons Philippe Levaillant, responsable médical de la cellule de Médecins sans frontières pour le Burkina, le Niger et le Nigeria.
Priorité santé sur RFI.
Alors avant de donner la parole aux auditeurs, on va d'abord bien sûr parler des facteurs de risque d'infertilité, l'accompagnement des couples, la prise en charge de ces couples. Mais docteur Sylvie Eppelboin, si vous le voulez bien, on va peut-être revenir d'abord sur l'impact qu'a pu avoir l'épidémie de coronavirus sur votre spécialité. Premier point peut-être sur le retentissement du Covid-19 sur la grossesse. Est-ce qu'on dispose de données à ce sujet? Est-ce qu'on a eu justement une idée de ce que cela pouvait avoir eu comme impact sur les femmes qui étaient par exemple enceintes?
Alors oui, on a un certain nombre de données qui touchent essentiellement les femmes qui étaient enceintes en fin de grossesse, et ça a surtout été les données qui venaient de la Chine, puisque les Chinois ont été les premiers touchés par cette épidémie. En fait, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que dans les formes de Covid où il y a eu une fièvre très importante, eh bien, comme toute fièvre très importante, elle a pu générer des contractions et notamment des accouchements prématurés. Mais par ailleurs, il y a eu un certain nombre de femmes enceintes qui ont été dans un état comparable à celle d'individus qui n'avaient pas la grossesse en plus comme facteur supplémentaire, et donc des femmes qui avaient des formes respiratoires et qui avaient la nécessité d'être mises sous oxygène, avec la plus grande difficulté pour prescrire un certain nombre de traitements, puisque ça pouvait être contre-indiqué pendant la grossesse, et le fait d'avoir un bébé in utero pouvait également jouer sur la fonction respiratoire. Néanmoins, ce qu'on ne sait pas encore à l'heure actuelle, c'est l'éventuel retentissement sur l'enfant, c'est-à-dire que les quelques études qui existent montrent que finalement l'enfant, en dehors de la complication issue de la prématurité ou du fait d'avoir eu une maman fébrile, il n'y a pas de nourrisson qui ait développé de forme grave. Et il y a de très rares études sur très petit nombre qui ont pu montrer éventuellement le passage du virus dans le lait maternel, à travers le lait maternel à l'enfant ou à travers les liquides génitaux à l'enfant, mais finalement assez peu de choses à l'heure actuelle. Quant au premier trimestre de la grossesse, bah, on ne sait pas grand-chose, on craignait des fausses couches, mais c'est très difficile sur des fausses couches du premier trimestre qui sont d'origine très diverse d'incriminer le Covid. Donc, il y a beaucoup de travaux en cours et peu de résultats à l'heure actuelle. Globalement, c'est très rassurant.
C'est rassurant, mais on sait à quel point, en tout cas, cette crise pendant les mois du printemps, on va dire, a bouleversé toute l'organisation en France du système hospitalier, du système médical. Est-ce que ça a été également le cas pour votre spécialité, la médecine de la reproduction, docteur Eppelboin? Comment ça s'est passé pour les couples engagés, par exemple, dans un processus d'aide médicale à la procréation?
Ben, la plupart de ces processus ont été interrompus pour plusieurs raisons. La première, c'était l'ignorance dans laquelle nous étions de l'éventuel retentissement sur la femme, l'embryon et le fœtus ultérieurement. Donc, le raisonnement était extrêmement pragmatique. C'était de dire qu'il était urgent de ne pas induire des grossesses dont on ne savait pas si elles seraient ultérieurement menacées. Et puis, le deuxième facteur très important, c'est que dans tous les hôpitaux, les personnels ont été réquisitionnés pour l'urgence, la réanimation. Il y a eu un grand bouleversement dans les tâches des uns et des autres. Par exemple, des techniciens en biologie de la reproduction ont été réquisitionnés en virologie. Des médecins de la reproduction, également obstétriciens, ont été réquisitionnés pour l'urgence liée au Covid, puisqu'il fallait mettre en place deux circuits pour les femmes Covid plus et Covid moins. Donc, il était totalement impossible de continuer. Et enfin, dernier argument, on ne savait pas grand-chose, donc on a tout de suite limité la circulation dans les hôpitaux et donc il ne fallait tout simplement pas que les femmes viennent. Donc on a été amené à arrêter des traitements, ce qui a été évidemment très difficile à vivre pour des femmes qui avaient misé sur cette période attendue depuis longtemps après un long parcours d'infertilité. Et ce n'est que maintenant que nous reprenons en priorité ces femmes et ces couples dont le traitement a été interrompu.
Alors, docteur Sylvie Eppelboin, beaucoup de questions des auditeurs. On va tout de suite commencer par un message Facebook de Kaba, auditeur de République démocratique du Congo. Il nous l'a adressé, je vous le lis. J'ai 38 ans, ma femme 21. Cela fait 9 mois que nous essayons d'avoir un enfant. Nous n'y arrivons pas. Pourtant, on calcule bien son cycle. Quelle pourrait en être la cause? Et il demande, est-ce qu'il faut s'inquiéter, docteur Sylvie Eppelboin? Très important, cette période de, on va dire, de 9 mois de tentative. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cet auditeur?
D'abord que 9 mois, c'est un petit peu symbolique. C'est le temps d'une grossesse, donc je me permets de faire le clin d'œil. Évidemment, comme dans toute question d'auditeur, il manque beaucoup de détails. C'est logique. Je dois dire que ce que vous me dites, ce que Kaba dit par votre intermédiaire, m'inspire plusieurs réflexions. Premièrement, à 21 ans, tout est très optimiste et effectivement, l'exploration diagnostique permettra de voir s'il y a un souci. Deuxièmement, 9 mois, ça paraît très long quand on veut un bébé et finalement, c'est très court. Imaginons par exemple une femme qui a des cycles relativement irréguliers avec des règles espacées, non pas d'un mois, mais de 2 mois. Donc, au lieu que cela fasse 9 mois, cela fait, disons, 4 ou 5 chances seulement sur ces 9 mois qu'au moment de la période fertile, il ait pu y avoir fécondation. Et 4 à 5 mois, c'est pas énormément pour obtenir une grossesse. Et puis, je suis frappée par la phrase « on calcule bien son cycle ».
C'est ça. Alors, c'est pour ça que j'ai souri en le disant, ce « on » est édifiant, quoi.
Ce « on », c'est super touchant, c'est-à-dire que l'homme et la femme sont très impliqués. Alors, il y a un calcul du cycle et il y a souvent des stratégies qui sont très contre-productives. Je veux dire que quand on lit beaucoup de choses, et notamment par l'intermédiaire d'Internet, qui a beaucoup de vertus, mais qui peut aussi avoir des défauts, et on se dit, tiens, au 13e jour, c'est là qu'il y a l'ovulation, si par exemple on a fait un test. Et il y a des gens qui ont la stratégie d'avoir des rapports qu'ils espèrent fécondants juste à ce moment-là ou après. Or, après, eh ben, de toute façon, c'est trop tard. Et souvent, il y a une modification des stratégies qui sont beaucoup trop strictes et parfois erronées. Il suffit de modifier ces stratégies pour que la grossesse survienne. Ce que je dirais par rapport à la question « faut-il s'inquiéter ?» Réponse « s'inquiéter, certainement pas, mais consulter pour faire un premier bilan, certainement, ne serait-ce que pour être rassuré. » Et dans ce cas, on attend un petit peu. Ou alors, pour que l'exploration détecte un souci, problème de spermatozoïdes non fécondants, ou bien un souci chez la femme, soit ovulation, soit un problème de trompe. Et à ce moment-là, on peut commencer à mettre en route des traitements. Mais même si ce ne sont pas des traitements, faire un bilan au bout d'un an, oui, ça mérite vraiment, dans une période où on a un petit peu le désir de maîtrise et qu'on a envie de quelque chose, il faut que ça vienne vite, puisqu'on a les moyens de savoir.
Alors, question Facebook, question en direct, message enregistré. On va partir tout de suite pour le Mali.
RFI à Bamako, 98.5 FM.
Avec une question de Mamadou, il est en quête d'explications, de solutions. On écoute tout de suite son message.
Bonjour docteur, bonjour chers auditeurs. J'ai 33 ans, ma femme en a 30. Nous sommes mariés depuis près de 5 ans. Depuis, c'est un parcours du combattant pour concevoir. Nous avons suivi beaucoup de traitements. Nous avons même fait une FIV, fécondation in vitro, qui n'a malheureusement pas marché. Nous avons vu beaucoup de spécialistes au Mali et au Maroc. Ils disent que je n'ai rien, ma femme non plus, mais nous n'arrivons pas à concevoir. Il faut savoir que de mon côté, j'ai déjà eu un enfant qui a maintenant 15 ans. Parfois, ma femme n'a pas ses règles pendant 2 mois, mais dès que nous avons un rapport sexuel, ses règles reviennent. Récemment, on s'est dit que c'est son col qui est peut-être plus fragile et qu'une relation sexuelle pourrait fragiliser une fécondation en cours. Nous ne sommes pas spécialistes, mais nous en avons pensé à ça. Qu'en pensez-vous? Il faut aussi savoir que ma femme se met en colère très vite. Elle est stressée. Naturellement, elle est comme ça. On sait que le stress influe aussi sur la fertilité. Récemment, un docteur aussi, un gynéco, a détecté chez elle, il y a une semaine, de l'endométriose, quelques centimètres, 2-3 centimètres. Alors, que pensez-vous de toutes ces situations et qu'est-ce que vous nous proposez? Merci.
Alors, je vais reprendre ces questions parce qu'il y a énormément de choses dans le message de Mamadou, si vous le voulez bien. Docteur Sylvie Pelboin, dans l'ordre, tout d'abord, il parle du retour des règles après une relation sexuelle. Est-ce que cette relation, ce rapport en lui-même, si j'ai bien compris, pourrait provoquer, on va dire, une fausse couche précoce? Je pense que c'est ça ce qu'il veut dire dans son message.
Alors la réponse est nette, c'est non, absolument pas. S'il y a des saignements après un rapport sexuel, eh bien Mamadou l'évoque lui-même, c'est qu'il peut y avoir une petite lésion au niveau du col, avec une fragilité du col qui entraîne des saignements qui ne sont pas des règles. À chaque fois que la femme a du sang, on prononce le mot « règle », c'est inapproprié. Les règles, c'est ce qui vient après tout un cycle, c'est un déclenchement hormonal, alors qu'il peut y avoir d'autres raisons de saigner par voie génitale, c'est-à-dire une petite fragilité du col. Donc les règles et les rapports sexuels, non.
Alors deuxième question, sur le lien éventuel entre le stress et la difficulté à concevoir.
Alors je dirais simplement, je n'ai pas fini, que c'est très important… qu'il y a un gynécologue qui regarde son col pour prouver ou au contraire ne pas retrouver cette lésion. Le stress. Alors le stress, la question nous vient très très souvent. Est-ce que le fait de ne pas arriver à concevoir c'est psychologique? Est-ce que il peut y avoir du stress? Je me rappelle que dans mes premières années de consultation dans ce domaine, très influencée par mes collègues psy avec qui nous travaillions ensemble, c'était une question que je posais toujours en consultation. Est-ce que vous avez une raison spécifique d'être stressé? Au bout de quelques années, comme personne ne m'avait jamais dit non, et que tout le monde s'estime pour une raison ou une autre stressée, c'est une question que j'ai arrêté de poser. Alors le stress, c'est la cause ou c'est la conséquence? Il y a effectivement des gens qui ont une vie extrêmement bousculée et qui ont des problèmes tout à fait extérieurs aux problèmes de fertilité. Et le stress va aussi se concrétiser par le fait que on est épuisé le soir, on n'a pas des rapports sexuels, ou bien il y a une dissension dans le couple, ou bien autre chose dont on ne sait pas très bien par où ça passe. Et ça passe parfois par une désorganisation des cycles, ce que nous appelons une dysovulation. Mais le stress, ça peut aussi être, toujours dans les causes, une pression familiale qui, dans cette certaine culture, est encore plus importante que dans d'autres. Mais comment? Tu n'es pas encore enceinte, mais c'est égoïste de ne pas avoir d'enfant. Ça me ferait tellement plaisir d'être grand-mère. Regarde ta sœur, elle a déjà 2 enfants. Et donc, c'est une pression sur les couples qui est extrêmement difficile à vivre. Et puis, il y a aussi le stress qui est la conséquence, c'est-à-dire que pour une raison physique, la femme n'est pas enceinte et quand ses règles arrivent chaque mois, c'est désespoir chaque mois et le stress monte d'un cycle à l'autre en ayant peur que c'est ce sang qui ponctue la vie revienne et signe l'absence de grossesse. Donc le stress, oui, il est présent partout. Une fois qu'on l'a dit, c'est vrai que c'est important d'en parler et de traiter à la fois le facteur psychologique en même temps qu'on fait des explorations sur le plan physique.
Et puis cette troisième question de Mamadou, là, un récent diagnostic d'endométriose, il quantifie justement les résultats de cet examen gynécologique a priori, 2-3 cm. Le lien entre endométriose et fertilité, qu'est-ce que vous pouvez dire à Mamadou? J'imagine que, bien sûr, il n'y a pas une réponse concrète, absolue, au téléphone comme ça, sans consultation. Il faut faire davantage de recherches, mais le lien, en tout cas, qui peut exister est réel.
Le lien est tout à fait réel. L'endométriose, c'est une pathologie qui correspond à une migration du tissu de l'intérieur de la cavité utérine qu'on appelle endomètre, un petit peu ailleurs, soit sur l'appareil génital, les ovaires, sur les trompes, ou bien dans ce qu'on appelle la cavité péritonéale, c'est-à-dire le ventre, où il peut y avoir des lésions d'endométriose qui se greffent un petit peu partout. C'est une maladie qui a été très longtemps négligée. On se souvient tous de femmes qui, au moment de leur première règle ou bien à chaque cycle, sont pliées en deux de douleur et à qui on dit que c'est dans la tête. C'est pas du tout dans la tête. C'est souvent lié à une endométriose parce que l'endométriose se manifeste par un climat très inflammatoire et comme toute inflammation à un autre niveau du corps, ça fait mal, c'est douloureux. Donc la douleur est un des premiers symptômes. Il peut aussi y avoir l'infertilité par de multiples mécanismes, soit parce que l'endométriose va se manifester par des lésions qui bouchent les trompes ou bien qui sont sur les ovaires. Ça peut également jouer sur le fait d'empêcher un embryon de se nider ou bien simplement par ce climat inflammatoire général qui empêche cette nidation de l'embryon. Donc, ce diagnostic est très important. 2-3 cm n'est pas pour moi interprétable parce que ça dépend si c'est une lésion qu'on a vue à tel ou tel endroit. Le diagnostic se fait déjà en soupçonnant à l'examen clinique où on peut retrouver des nodules d'endométriose. On voit très bien sur une bonne échographie et la confirmation doit être faite avec une IRM quand bien sûr l'IRM est à disposition, ce qui n'est pas le cas partout. Ce qui m'étonne dans le cas de Mamadou, c'est qu'il dit qu'il a subi avec son épouse un long parcours du combattant et que s'il y a eu une fécondation in vitro, s'ils ont vu des gens professionnels au Mali et au Maroc, normalement, le diagnostic d'endométriose aurait peut-être été fait, qu'il n'aurait pas été exprimé en tant que tel. En tout cas, c'est une donnée très importante vis-à-vis de laquelle il y a une réponse qui est tout à fait claire avec proposition soit de chirurgie, soit de poursuivre en fécondation in vitro, parce que malheureusement, la fécondation in vitro ne donne pas des résultats à 100% sur une.
Donc, ça veut dire retourner consulter, c'est ça l'essentiel du message à transmettre à Mamadou et à son épouse.
Eh bien, certainement, aller voir le médecin qui, de façon très percutante, a diagnostiqué l'endométriose. Ça doit être la personne qui va pouvoir les tirer d'affaire, je l'espère.
et les orienter. On va tout de suite prendre en ligne une auditrice en ligne de Paris. On vous retrouve, Tsipora, bonjour.
Bonjour.
Alors expliquez-nous, Tsipora, pourquoi vous avez tenu à participer aujourd'hui à notre émission. Expliquez-nous.
Alors, j'ai tenu à participer parce que je voulais parler de mon parcours en tant que donneuse d'ovocytes. Donc voilà, l'idée était de partager avec vos auditeurs, auditrices, le fait que les femmes peuvent aussi faire des dons d'ovocytes. Hein. Le parcours est assez particulier, hein, c'est pas aussi simple que le don de sperme. Mais voilà, l'idée était de pouvoir expliquer qu'en tant que femme, on peut le faire. C'est un parcours qui, du coup, demande déjà à ce qu'on soit âgé entre 18 et 37 ans, d'être en bonne santé. Donc, il y a tout un parcours santé avec plusieurs check-ups à suivre. Et ensuite, l'idée, c'est d'avoir une intervention chirurgicale pour la ponction des ovocytes.
Alors justement, processus de don, on va dire, qui est loin d'être anodin, ça vient d'où, vous, à titre personnel, cette décision de vous engager dans ce processus très particulier ?
Alors, ça vient de mon expérience personnelle, dans le sens où j'avais autour de moi pas mal de femmes qui n'arrivaient pas à tomber enceinte. Donc, du coup, j'ai pu vivre avec elles tout ce parcours, justement, de PMA. Et je me suis dit, je vais voir si déjà, moi, j'ai assez d'ovocytes, si je peux en donner. Et c'est là qu'en fait, à l'issue d'un dîner, en fait, avec des amis, on a parlé, justement, du don d'ovocytes, etc., que je découvrais, voilà. Ça, c'était l'année dernière, en février 2019. Et à l'issue de ce dîner, j'ai été regarder un peu comment ça se passait en France. Et du coup, je suis tombée sur le site du SECOS et j'ai contacté le SECOS de Cochin. Et du coup, j'ai demandé à avoir du coup la plaquette d'information et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment à partir d'une expérience personnelle et surtout en tant que femme noire, j'estimais que c'était beaucoup plus difficile en fait pour les receveuses parce que la liste d'attente est hyper longue en fait. Je me suis dit, elle est hyper longue pour tout le monde. Et quand on va pour des populations racisées, c'est d'autant plus difficile en fait de recevoir. Donc je me suis dit, je pense pas qu'il en court des rues des donneuses d'ovocytes racisées ou noires. Donc pourquoi pas le faire parce que je vois à travers mes amis et certains membres de ma famille comment c'est difficile en fait de vivre ce parcours-là.
Et votre démarche, vous en avez parlé autour de vous, est-ce qu'il y a eu des réactions particulières ?
Oui, alors la plupart de mes amies, même si elles sont plus ou moins concernées, elles trouvent ça louable, mais elles ne le feraient pas. Il y a un peu ce côté, c'est très bien, mais déjà, ça me ferait bizarre en fait de savoir qu'il y a un enfant qui est issu en fait de mes dons, enfin de mon don, et de ne pas le connaître. Et il y a aussi ce côté éthique, hein, parce que là, il y avait pas mal de discussions autour des lois de bioéthique et sur la levée de l'anonymat. Et du coup, ça, c'est un autre point qui, du coup, faisait encore plus peur. Donc, on va dire qu'autour de moi, ils sont fiers, ils sont contents que j'ai fait la démarche. Mais après, ce n'est pas quelque chose qu'ils feraient à leur tour, en fait.
Et vous, à titre personnel, ce désir d'enfant, Tsipora, vous ne le ressentez pas ? Par contre, donner, on va dire, de votre personne pour les autres, oui, mais pas pour l'instant accueillir un bébé.
Exactement. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un élément que les gens n'arrivent pas à entendre. Donc moi, j'ai un non-désir de maternité, mais j'ai pu découvrir à travers ce don que je pouvais, en fait, je pouvais avoir des enfants. Mais du coup, je suis très pro-choix. Donc j'estime que si une femme a mûri et sa réflexion et a décidé d'enfanter, si elle ne peut pas, c'est super triste en fait. Et du coup, pourquoi pas jouer de cette sororité et s'assurer que cette personne qui veut devenir maman puisse le devenir. Moi, je ne suis pas anti-maman, je ne suis pas anti-enfant. Au contraire, je me suis dit, je peux, mais j'en ai pas envie. Et en face, j'ai des femmes qui veulent, mais qui ne peuvent pas. Donc voilà, c'était une sorte de, je ne sais pas, je me suis dit...
À la fois manifeste pour la générosité et la liberté.
Exactement, très bien résumé.
Sipora, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage. On vous retrouve, docteur Sylvie Pelboin, gynécologue obstétricienne. Votre réaction après justement ce choix d'aider les autres quand soi-même on n'est pas forcément fixé sur son devenir en tant que femme ou en tant que mère, comment vous réagissez?
Ah, d'abord, une réaction très empathique vis-à-vis de ce témoignage énergique et Tipora, je crois, disait que autour d'elle, on avait dit que c'était louable. Oui, c'est vraiment une démarche qui fait plaisir. Alors, plusieurs choses dans ce qui a été dit est extrêmement bien exprimé. Peut-être d'abord préciser que le don d'ovocytes répond à l'infertilité quand les ovaires de la femme ne produisent plus d'ovules et que ça ne résout pas toutes les infertilités féminines. Toutes les femmes qui veulent avoir un enfant, ça ne sera pas résolu si c'est un problème de trompe bouchée par le don d'ovules. Et ça, peut-être que ça méritait d'être précisé. Je voulais réagir aussi par rapport à ce qu'a dit plusieurs fois Tipora, qui est de mettre en avant la difficulté pour les femmes d'origine africaine. Oui, c'est vrai, mais c'est la difficulté sur laquelle elle a insisté réside dans le fait que il y a moins de personnes à peau noire en région parisienne ou en métropole en France que en Afrique ou aux Antilles ou en Martinique. Et donc, la raison est une raison de rareté et non pas de discrimination. Et je ne voudrais pas que ça puisse être mal interprété. Donc, j'avais un petit peu envie de repréciser. Voilà.
Alors, mais c'est peut-être aussi une question d'information aussi.
C'est une question d'information, mais l'Agence de la biomédecine, qui est l'organisme qui régit nos activités depuis la loi de 1994, a fait plusieurs et excellentes campagnes pour promouvoir le don. Néanmoins, tout ce que je vais vous dire était déjà contenu dans son témoignage, c'est-à-dire qu'à la différence du don de sperme, je parle sur le plan technique, qui demande à un homme une masturbation au laboratoire et un recueil de spermatozoïdes, avec un recueil qui permettra d'aider de multiples couples dont l'homme est stérile. À la différence de cela, qui est très respectable, mais qui n'est pas médicalement très lourd, pour obtenir des ovules chez la femme, il faut effectivement faire une stimulation ovarienne, donc ce sont des injections. Il va y avoir une inondation hormonale, comme ça a été très très bien décrit. Il faut ensuite aller, qui peut générer quelques inconforts. Et puis après, c'est quand même un passage au bloc opératoire avec un prélèvement chirurgical d'ovules, même si c'est léger, sous échographie, par voie naturelle, avec une anesthésie qui peut être locale, une sédation, une anesthésie générale. Ça prend une quinzaine de jours de traitement dans la vie, précédé d'un tas d'explorations. Il faut donc avoir une vraie volonté, une vraie disponibilité. Et il n'y a plus à l'heure actuelle de phénomènes qui pouvaient être graves dans les premiers temps d'hyperstimulation hormonale, parce que nous savons déclencher l'ovulation pour obtenir un nombre d'ovules satisfaisant pour la receveuse sans qu'il y ait de soucis de santé pour la donneuse. Néanmoins, c'est vraiment un parcours compliqué et c'est vrai que tout le monde ne se réveille pas le lendemain d'un dîner où on a été très touché comme votre auditrice en disant vraiment je vais le faire parce que c'est une démarche complexe, mais il faut encourager parce qu'on essaye de l'encadrer, on essaye que ce soit à moindre douleur et il y a un côté gratifiant également très important. Et sur le dernier point, de ce que disent ou lui ont dit ses amis, je ne voudrais pas avoir l'idée d'un enfant, là il faut vraiment clarifier les idées, c'est-à-dire que ce sont des gamètes, donc des cellules du corps, qui certes vont porter le capital chromosomique transmis par des générations, mais l'enfant, c'est vraiment l'union d'un ovule, d'un spermatozoïde, d'un projet parental. Et donc l'enfant qui va naître, qui va passer 9 mois dans le ventre de sa maman qui aura reçu l'ovule fécondé par le spermatozoïde du conjoint, il n'y a vraiment plus de penser que la donneuse pourra avoir un enfant qui se trimballe de par le monde, comme on peut l'avoir, mais on ne va pas aborder là le sujet, avec le don d'embryon, par exemple.
Mmh, et c'est totalement
très
différent.
Important de le dire par rapport à votre public d'auditeurs, dont beaucoup sont originaires du continent africain, où on connaît la différence entre la parenté génétique et puis toute cette parenté classificatoire où un enfant fait partie d'une famille, d'un groupe social et où parfois l'enfant va appeler père ou mère quelqu'un qui n'aura pas été à l'origine de sa conception. Il y a de multiples modèles. Il y en a ailleurs qu'en Afrique d'ailleurs. Mmh. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas poser plus d'obstacles dans des populations d'origine africaine que dans d'autres populations où la réticence est là, où nous essayons de les convaincre par toute cette information disant que oui, c'est un geste généreux comme peut l'être le don de sang, par exemple.
Oui. Où... On en parlait justement cette semaine. Docteur Sylvie Pelboin, on va reparler justement des autres causes de l'infertilité. On va passer à d'autres questions d'auditeurs parce qu'elles sont nombreuses. J'ai une question très importante parce qu'ils ont été nombreux à se la poser, comme Benjamin de Bukavu en RDC ou Franck de Mbandaka, toujours en RDC. Alors Benjamin, est-ce que les infections chez l'homme comme chez les femmes peuvent être parmi les causes de l'infertilité? Et Franck qui demande, est-ce que les infections sexuellement transmissibles mal soignées peuvent conduire à l'infertilité?
Alors, s'il y avait juste un mot, c'est oui. Mm-hmm. Ils ont parfaitement raison l'un et l'autre. Mm-hmm. Alors, si je développe un tout petit peu, eh bien, oui. Que font les infections? Chez la femme, les infections peuvent entraîner donc une anomalie au niveau de l'utérus, qu'on appelle une endométrite, donc une inflammation de la muqueuse de cette zone où va s'implanter l'embryon, mais surtout des lésions au niveau des trompes, et c'est ça qui entraîne ce qu'on appelle communément les trompes bouchées.
Donc, oui. En cas d'infection, ne pas laisser traîner, aller vite, consulter, prendre un traitement et tout simplement se soigner. Autre question, celle-ci est posée par Yaovi du Burkina Faso, on l'écoute tout de suite.
Bonjour Caroline, je suis Yaovi depuis Ouagadougou, âgé de 31 ans. J'aimerais vous poser une question. Je voudrais savoir si il est possible que le groupe sanguin joue un rôle sur la fécondité d'un couple. Parce que ça fait 4 ans que je suis avec ma femme. Et depuis là, même pas un seul signe de grossesse. Moi, je suis B+, et elle est A+. Donc, je voudrais avoir plus d'éclaircissements, si possible.
Alors, un éclaircissement général, bien sûr, on ne va pas explorer les causes du problème de conception pour Yaovi et pour sa compagne, mais sur cette question très ponctuelle, groupe sanguin et fertilité, est-ce que cela peut jouer, avoir une incidence, comme le demande cet auditeur, docteur Eppelboin?
La réponse est aussi nette que pour les infections, mais inverse, la réponse est non, non et non. Absolument
et ben voilà,
pas.
Donc
là, la seule chose qu'on puisse avoir en tête, c'est... c'est peut-être ça qui a perturbé votre auditeur. C'est une question de rhésus. Quand le rhésus est négatif chez la femme et positif chez l'homme, il peut y avoir, lors de la seconde grossesse, un problème dans le développement du bébé. Mais c'est tout à fait une autre question et on peut aussi y parer. Mais par rapport à la fertilité, non.
Donc, c'est une fois que la conception est là qu'il faut se poser la question sur le groupe sanguin, mais en aucun cas quand
sur
il n'y a
rhésus,
pas eu...
Sur le rhésus.
Sur le rhésus. Et autre témoignage, autre question, cette fois c'est Issa, qui est au Mali à Ségou, et qui nous a, là encore, laissé un message sur le répondeur de Priorité Santé.
Bonjour Caroline, bonjour à votre invité, c'est Issa. Je suis au Mali, précisément dans la région de Ségou. J'ai 32 ans, je me suis marié en 2012, ma femme a 28 ans. Et de 2012 à aujourd'hui, nous n'avons pas pu avoir d'enfant. Donc ma femme a fait plusieurs tests, notamment la BW, Tolo, Rubéole, même hystérographie. Et le gynécologue nous a fait savoir qu'elle ne souffre de rien. Et ensuite, j'ai fait mon analyse et on m'a diagnostiqué... oligo-asténosoespermie légère. Voilà. Donc, je voudrais vous demander si vous pouvez nous aider avec des conseils ou des traitements afin qu'on puisse avoir d'enfants. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que notre couple a une chance un jour d'avoir des enfants? Merci.
Alors, docteur Sylvie Epelboin, encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse répondre directement à la question de Issa. Est-ce que notre couple a une chance d'avoir un jour des enfants? Mais au moins, cette explication qu'il demande sur l'oligoasténospermie légère, qu'est-ce que ça veut dire?
Dire qu'il y a dans l'examen des caractéristiques du sperme, il y a moins de spermatozoïdes qu'attendus dans ce qu'on appelle l'éjaculat, donc dans ce qui est produit au moment du rapport sexuel. Et puis la sténospermie, c'est un problème de mobilité avec des spermatozoïdes un petit peu paresseux. Donc, comme vous le disiez, c'est difficile d'avoir un diagnostic à distance, mais avoir une oligoasténospermie est une des causes d'infertilité. Et puisque Issa affirme que le reste du bilan est normal chez sa femme, ça peut être un problème relativement facile à résoudre par des inséminations intra-utérines ou à partir du recueil de sperme, eh bien, on va sélectionner les spermatozoïdes les plus mobiles et les déposer directement dans l'utérus de la femme. Ou bien, si finalement son oligoasténospermie n'est pas si légère que ça, c'est la fécondation in vitro. Donc, résolument, moi, je m'avance sur la question, oui, vous avez une chance un jour d'avoir des enfants. Probablement en passant par la médicalisation, ça sera plus facile. Mais une fois de plus, l'âge de la femme joue énormément. Il y a 28 ans et 32 ans, vous avez tout l'avenir devant vous et très optimiste.
Alors, vous parlez de l'âge, justement, docteur Sylvie Epelboin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que vraiment, pour la population, cette prise en considération de l'âge, et en particulier de l'âge de la femme, c'est quelque chose qui est bien compris, de dire à quel point cela peut avoir une influence sur le processus de fertilité?
Non, je pense que c'est pas bien compris, que c'est pas bien entendu, que la vie a changé et que c'est vrai que dans des populations... Où, en France, l'espérance de vie des femmes est de 87 ans. En Afrique, malheureusement, un peu moins. Mais néanmoins, il y a une part de la vie de la femme qui est extrêmement congrue, c'est-à-dire peu importante en nombre d'années pour concevoir. Et à partir de 35 ans, la fertilité baisse. Et à partir de 40 ans, il y a finalement peu de grossesses qui arrive à une naissance, parce qu'on connaît beaucoup de femmes qui peuvent être enceintes, mais il y a un taux de fausse couche qui est important en raison de vieillissement des ovaires qui sont vieillissement qui survient bien avant le vieillissement de la femme. Donc, il y a une information qui est donnée et qui est soit mal comprise parce qu'on a des très jeunes femmes de la quarantaine qui ne comprennent pas pourquoi ça ne marcherait pas. Mmh. Il y a une information qui est tronquée par les médias
qui mettent en avant des grossesses très tardives et très heureuses.
Absolument, mais qui sont toutes le fruit de dons d'ovules, ce qu'on ne dit pas, c'est-à-dire une grossesse portée évidemment de façon assez facile par une femme de 40 à 45 ans, disons, mais qui a été obtenue grâce à un ovule donné, que c'était le témoignage de Tsipora tout à l'heure. Et par ailleurs, même quand l'information est comprise, ben, la vie ne permet pas toujours d'avoir le compagnon qui sera le futur papa. Quelquefois, les femmes sont dans un engagement professionnel où on va leur reprocher d'être enceinte, donc elles retardent la grossesse. Et parfois, ce sont les études. Et c'est là que prend toute sa place la préservation de la fertilité quand vraiment il y a une impossibilité à concevoir immédiatement et que pour une raison ou une autre, soit héréditaire, soit endométriose, soit autre, la réserve des ovaires en follicule va baisser plus rapidement. Donc c'est vrai que j'avais envie de prononcer ce mot de préservation de la fertilité qui à l'heure actuelle est possible, pas partout malheureusement, mais qu'il faut envisager.
Vous restez avec nous, docteur Sylvie Epelboin. On va parler tout de suite de l'accompagnement, de l'écoute des femmes, des couples en ligne de RDC. On vous retrouve, Sandrine Cachara, bonjour.
Je suis là.
Vous êtes là, vous êtes coordinatrice nationale pour Femmes solidaires en RDC. Ce collectif, vous l'avez fondé il y a 5 ans, Sandrine Cachara. Expliquez-nous dans quelles conditions.
Oui, en fait, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. J'étais mariée pendant 10 ans et je n'ai pas eu d'enfant. Et c'est à travers la douleur que j'ai ressentie pendant cette période que j'ai voulu aider les femmes qui connaissent la même situation dans leur couple. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer l'organisation Femmes Solidaires pour libérer la parole et donner un peu plus de dignité à ces femmes. C'était pour briser les tabous sur les souffrances silencieuses. De nombreuses Congolaises pensent que c'est un problème de société qui était ignoré.
Alors la ligne n'est pas très bonne, je vais quand même continuer avec vous. Sandrine Cachara, vous évoquez ces souffrances, libérer la parole. Précisément, qu'est-ce que vous disent ces femmes quand elles viennent vous rencontrer au sein de votre collectif? Comment racontent-elles cette épreuve? Sandrine Cachara, est-ce que vous êtes
femmes,
là?
Oui. Ces femmes, elles font face à beaucoup de réjouis. Nous faisons face à beaucoup de rejets, le rejet de la belle famille, le rejet de la société. Il y a des fausses accusations concernant les avortements, la prostitution. C'est une forme de marginalisation absolue. Du coup, la femme se culpabilise et bloque énormément de choses, l'empêchant de participer à de nombreuses activités dans la société.
Alors, Femmes Solidaires, c'est le nom de vos organisations. Ce sera ma dernière question. Et les hommes, ils viennent aussi vous voir pour parler de leur ressenti, du regard de la société quand on est en couple et quand l'enfant ne vient pas?
Oui, les hommes viennent aussi. Et pour les hommes, ça ne se passe au niveau de l'héritage. Les hommes, ils ont difficile à hériter des biens de leur famille s'ils n'ont pas d'enfants. Et c'est tout cela qu'on peut voir. Et nous essayons aussi de les accompagner. Et nous luttons aussi contre toutes ces coutumes rétrogrades dans notre communauté.
Merci beaucoup, Sandrine Cachara, d'avoir témoigné. On aurait bien parlé avec vous plus longtemps, mais la ligne n'est pas très, très bonne. La liaison technique n'est pas excellente. Bien évidemment, on comprend, docteur Sylvie Pellebois, on a parlé avec vous, on va dire, du volet médical. On comprend tout l'impact sociétal, notamment dans certaines régions du monde. Mais on peut dire que cette question, elle est véritablement universelle. Et elle met vraiment en avant le côté absolument essentiel de l'accompagnement de ces couples.
Oui, absolument. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce témoignage et cette initiative qui est remarquable. Je rajouterai juste un facteur, puisque moi je travaille dans un centre de fécondation in vitro qui s'occupe des femmes qui ont un risque viral pour les hépatites ou pour le VIH. Et je rajouterai que par ailleurs, l'infection VIH est une autre forme de discrimination en plus de la stérilité, entre guillemets, et que donc il y a beaucoup de femmes qui vont être isolées, menacées d'être répudiées, et qui nous en parlent, même ici à Paris, en disant « mais vous devez absolument faire quelque chose pour moi, parce que sinon, même si mon mari m'aime, il va, comme dans une génération antérieure, sous la pression de la belle famille, chercher ailleurs ». Et donc, oui, on le sent énormément, et pas seulement, évidemment, dans les cultures africaines, mais la stigmatisation de la femme qui n'a pas d'enfant dans un milieu où tous les gens de sa classe d'âge vont parler couche-culotte, berceau et rentrée en maternelle, c'est extrêmement compliqué et c'est difficile de vivre et ça crée des rancœurs, des aigreurs qui malheureusement ne sont pas toujours suivies d'une consultation pour voir ce qu'il en est, c'est-à-dire que il y a des femmes qui vont être bien orientées et d'autres moins. Et c'est cette généralisation d'accompagnement qu'il faut tenter d'obtenir.
Merci beaucoup de nous avoir en tout cas accompagnés pendant cette émission, d'avoir répondu à toutes ces questions. Docteur Sylvie Pellebois, il y avait encore énormément de choses à dire. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne. Le titre de cet ouvrage que vous avez co-signé avec Élise Carlin, publié chez Grasset, « J'ai longtemps pensé qu'il suffisait d'être deux ».
Priorité santé sur RFI.
Comment la prise en charge du Covid-19 a une influence sur les systèmes sanitaires dans la région Sahel? On va en parler tout de suite avec vous, Philippe Levaillant, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes responsable médical de la cellule chargée du Burkina Faso, du Nigeria et du Niger pour Médecins sans frontières. Alors évidemment, dans l'actualité de ces derniers mois, le Covid-19 a occupé l'essentiel de l'actualité, y compris dans cette région d'Afrique subsaharienne. Et pourtant, les besoins pour, bien évidemment, tous les autres impératifs de santé sont toujours là. Qu'est-ce que vous avez pu, vous, constater au cours des derniers mois écoulés sur le terrain?
En fait, il y a surtout une mobilisation de tous les systèmes de santé par rapport à la menace du Covid, donc qui au départ était impossible à prédire, que ce soit l'ampleur ou les mesures qu'il fallait prendre. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un impact indirect du Covid sur toutes les économies de la sous-région, qui crée un peu des tensions sur le marché des céréales, par exemple, donc qui augmente les prix des aliments. Et l'autre aspect qu'on voit, c'est aussi les mobilisations de tous les systèmes de santé pour la réponse au Covid, qui les rend un peu plus fragiles pour continuer les activités habituelles. C'est-à-dire, on pourrait prendre comme exemple la vaccination, mais surtout, ce qui nous préoccupe actuellement, c'est la prévention du palu, qui est faite tous les ans depuis 5 ou 6 années, à partir du mois de juillet, avec 4 passages mensuels successifs pour donner une prévention à tous les enfants de moins de 5 ans. Ce qui évite beaucoup de cas de palu, donc beaucoup d'hospitalisation. Et cette distribution risque d'être un peu perturbée, si vous voulez, d'abord par les mesures de précaution, puisque avant c'était des distributions de masse, et il faut passer une stratégie en porte-à-porte. Mmh. Et ensuite, les systèmes de santé sont c'est un peu plus complexe pour eux dans ce contexte du Covid à être aussi performant en termes d'organisation.
Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est quoi? C'est une forme de réorientation pour que les autres grands risques sanitaires ne soient pas finalement les laissés pour compte d'une forme d'inquiétude généralisée. Ne pas sous-estimer la malnutrition et le risque du paludisme, c'est bien ça?
Oui, exactement. Si vous voulez, c'est une activité cyclique en Afrique de l'Ouest et il y a vraiment une saison qu'on appelle de la malnutrition et aussi de la malaria qui est surtout basé sur août, septembre, octobre, novembre, qui concerne plus de la moitié des admissions hospitalières de l'année. Et on a un peu des craintes, si vous voulez, à la fois une tension de tous les systèmes d'approvisionnement, quoi, que ce soit des tests palus, des médicaments, que ce soit des aliments thérapeutiques qui seront donnés aux enfants, à la fois dans les pays eux-mêmes, parce que les systèmes sont un peu désorganisés, mais aussi chez les producteurs de médicaments, puisque la plupart de ces médicaments viennent d'Inde ou de Chine, et qu'il y a aussi des tensions sur la possibilité de faire bouger tous ces stocks. Donc on a surtout beaucoup d'inquiétudes sur la garantie d'éviter des ruptures dans les mois qui viennent, au moment où les besoins seront les plus importants.
Attention à ces chaînes d'approvisionnement, donc on a bien compris le message. Merci beaucoup, Philippe Levaillant, responsable médical de la cellule MSF Nigeria, Niger et Burkina Faso. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe aujourd'hui au travail, à Sétou Samaki, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Raphaël Lazizi. Demain, nous allons parler de la prise en charge des addictions à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Reportage à Abidjan, gros plan sur le sépia de Dakar. À demain, d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.